Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, c'est Sabine Calégari. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'été qui, pour certains, annonce le temps des vacances. Au fait, que signifie au juste ce terme de vacances ? Le mot lui-même vient de l'adjectif latin « vacances », ans, qui signifie « libre, inoccupé ». De là, « vacances » en français, au singulier ou au pluriel. Le sens n'est pas le même. La vacance désigne le temps pendant lequel une fonction n'est pas remplie, pour un tribunal par exemple. Au sens moral, la vacance est le vide affectif ou intellectuel, sens plutôt négatif donc. Ici vient l'explication philosophique des vacances. Le pluriel renverrait à la diversité du divertissement que nous voulons pour nos vacances. Le philosophe Blaise Pascal nous l'explique très bien. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son vide. Pourtant, on ne se sent pas vide quand on parle. Et les vacances peuvent aussi en donner l'occasion. Alors pour vous écouter, Parlons-nous est là tout l'été. Jusqu'à minuit, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Paul et Colin vous accueillent au standard. Et si vous préférez réagir à ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-Parlons-nous. Marc Bisset est à la réalisation. Nous sommes prêts à commencer. Bonsoir David.
Oui, bonsoir Sabine.
De quoi souhaitez-vous nous parler David?
Alors, voilà. J'ai une relation avec une femme mariée depuis plus de 5 ans, 5 ans et demi maintenant. Mmh. Et donc, elle me promet toujours, elle est toujours mariée. Mmh. Et elle me promet toujours de quitter son mari. Voilà, elle a 2 enfants. Mmh. Et le temps passe et je suis toujours là à l'attendre, on va dire. Donc des moments, je me dis, bon, il faut que tu passes à autre chose. Moi, j'ai 42 ans.
Oui.
Elle est un petit peu plus âgée que moi. Je me dis, il faut que tu passes à autre chose. Et puis quand j'essaie de passer à autre chose, je peux pas, quoi.
Vous êtes amoureux.
Ah ouais, je l'aime fort, ouais.
Oui.
Ah ouais, c'est très, très dur. Franchement, c'est très dur de ne pas l'avoir à côté de moi. C'est très dur.
Oui,
très,
vous très êtes dur. Dans des multiples privations, j'imagine. Les fêtes, les vacances,
voilà,
les longs week-ends. Vous n'avez que des moments avec elle, c'est ça?
Ah, plein. Plein. Ouais. Et pour... voilà, c'était... j'avais ma maman malade à la maison. C'était l'infirmière de ma maman. Et je l'ai connue comme ça.
Il y a 5 ans, donc.
Voilà, plus de 5 ans. Ouais, 5 ans et demi maintenant.
Oui.
Donc ça fera 6 ans, là, au mois de décembre. Et... de la savoir chez elle, de ne pas l'avoir à mes côtés, c'est très très dur. Très 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 dur. Voilà, je me dis, est-ce que j'essaie toujours de passer à autre chose, mais j'y arrive pas, quoi.
Oui, vous êtes dans le dilemme entre la raison et le cœur.
Voilà.
Vous êtes amoureux, vous n'arrivez pas à la quitter, et la raison vous dit que le temps passe et,
ben
et que
voilà.
C'est pas sûr
et quand,
que
et quand je ne mets pas de message, ben elle m'en remet, puis quand elle n'en met pas, je m'en remets, donc c'est... C'est un jeu sans fin, quoi. Et on se revoit tout le temps et puis on n'arrive pas,
à vous séparer
et à passer à autre chose, quoi.
Elle aussi, elle essayait de vous quitter en voyant que vous étiez malheureux ou dans l'attente.
Ça lui fait du mal, mais elle n'y arrive pas non plus.
Oui.
Elle n'y arrive pas non plus et elle est perdue, pour son. Elle est perdue et elle ne sait plus, quoi. Et son mari, il le sait.
Ah.
Donc elle, voilà, oui, c'est ça le dilemme. Et il le sait depuis 2 ans.
Oui.
Donc depuis, bah, il la bloque sur le divorce. Il la bloque sur tout, quoi. Et il a menace de plus voir ses enfants. Enfin, tout ça, quoi. De la maison et tout ça, quoi. Donc elle sait plus, quoi.
Et son mari l'intimide donc pour qu'elle n'ose
voilà,
pas le
fait,
quitter.
Ouais.
Mais en revanche, il ne fait pas obstacle plus que ça à ce que vous continuez à vous voir ou vous arrivez à le faire vraiment en secret.
On n'est pas en secret. Ouais.
Oui.
On n'arrive pas à plus se voir, quoi, c'est pas possible. Et quand on se voit, c'est toujours un moment magique, voilà, franchement,
oui.
Comme jamais j'ai connu avec une autre femme, quoi.
J'imagine bien, sinon vous n'endureriez pas toute cette attente.
Non,
c'est
sûr. C'est ce que je lui ai déjà dit, c'est ce qu'elle me dit aussi, d'ailleurs. Mais bon, voilà, je lui ai dit, je dis si ça fera 6 ans au mois de décembre, si franchement tu es encore avec lui, il va falloir prendre une décision, quoi. Oui. Ça commence à devenir compliqué.
Oui, un peu, ça aussi, c'est la raison qui vous dit ça, mais.
Le cœur, il dit pas pareil.
Mais oui, c'est ça. Donc vous vous sentez accroché à cette, situation, à cet amour.
Jamais comme vous. Jamais j'ai aimé quelqu'un, quoi. Mmh. Franchement.
Vous parlez facilement avec elle? Est-ce que vous arrivez à parler de la situation? Ou quand vous êtes ensemble, comme ça arrive parfois, vous essayez de penser à autre chose?
Quand je lui en parle, elle pleure. Elle ne sait plus. Elle est perdue, quoi. Elle me dit je t'aime fort, mais. Et voilà, il bloque de tous les côtés. Et je sais qu'elle ne peut pas faire ses enfants non plus, quoi. C'est pas possible. On dit qu'elle ne les voit pas pendant 2 jours, et c'est tout à fait normal. Elle est perdue, quoi.
Vous dites qu'il la bloque depuis 2 ans, donc il s'est passé 3 ans avant qu'il ne le sache et qu'il ne la bloque. Donc c'est peut-être pas si facile pour elle-même, indépendamment de ça.
Il nous a surpris, voilà, quoi. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon. Il nous a surpris avec elle, quoi, enfin, tous les deux.
Oula, ça a dû être une scène pénible.
C'est très violent pour lui, c'est une réaction. Enfin, voilà, moi, je comprends ce qu'il ait pu ressentir, quoi. Ça a dû être terrible. Mmh. Et j'en suis pas fier. Et non plus, on aurait préféré que ça se passe autrement.
Bien sûr.
Mais et aujourd'hui, ben voilà, sa rancœur, c'est ça, quoi. C'est de. Enfin, sa vengeance, c'est ça, c'est de la bloquer, quoi.
À aucun moment, lui n'a envisagé de la quitter.
Il lui dit tout le temps de qu'elle parte et tout ça, mais il sait très bien qu'elle ne peut pas partir comme ça, quoi. Mmh. Il sait très bien qu'elle est tellement attachée à ses enfants qu'elle ne partira pas non plus, c'est normal. Mmh. C'est normal, c'est des ados, ils ont 12 ans, 15 ans, donc c'est compliqué. Et puis voilà, s'il saurait que je la vois toujours, ça sera encore pire. Mmh. C'est encore pire. Mmh. Moi, je l'aime, mais je sais que c'est pas bien. Voilà, je me dis des fois.
L'amour n'a pas toujours grand chose à voir avec la morale.
Non.
Même si on essaie de le canaliser avec notre éthique.
Je me suis excusé plein de fois. Je me suis dit, bon, si je pouvais, je te laisserais partir. Voilà, je te laisserais tranquille. Voilà, peut-être qu'après, avec lui, tu. Mais elle me dit que non. Elle me dit que c'est plus possible, quoi. Même de lui. Possible, il peut pas lui pardonner et puis elle ressent même du dégoût par rapport à lui. Mmh. Donc, mais voilà, moi je m'en suis voulu beaucoup. Voilà, je m'en veux encore beaucoup parce que c'est moi qui suis venu vers elle, c'est moi qui t'ai dragué au début.
Enfin là, David, je crois que vous êtes deux adultes consentants avec une certaine maturité, si j'ai bien compris. Je pense que c'est une femme libre
elle a 10 ans
de
plus que moi.
Oui, mais c'est une femme libre de ses actes. Alors, libre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des dilemmes intérieurs. Mais je ne crois pas que vous puissiez endosser la responsabilité de sa situation à elle.
C'est ce qu'elle me dit.
Oui, elle a raison. Elle a raison.
Mmh. Elle me dit que je suis aussi coupable que toi, quoi.
À supposer qu'il y ait de la culpabilité, c'est que, oui, c'est une situation difficile, éprouvante, source de dilemmes, de conflits intérieurs, mais culpabilité,
Voilà, là, on est dans une situation très, 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 très compliquée. On ne sait plus trop quoi faire, puis quand on se voit, c'est plus fort que nous, quoi. On ne peut pas se voir... Plein de fois, on a essayé de se dire, bon, allez, on se voit en ami, et puis c'est tout, et ça restera comme ça, tu restes marié, tu vois tes enfants, et puis à chaque fois, on n'y arrive pas, quoi.
Mmh.
On n'y arrive pas, à chaque fois, c'est plus fort que nous, quoi.
Vous savez, David, pourquoi vous avez cette relation si forte à cette femme-là? Est-ce que vous savez de quoi est fait ce lien qui vous... Enfin, qui est un fil d'acier,
J'ai connu une situation un peu spéciale.
Oui.
C'est quand elle venait soigner ma maman qui était très malade, qui est décédée depuis maintenant 2 ans.
Oui.
Et dès le départ, dès que je l'ai vue, je sais pas, c'était un flash, franchement. Dès que je l'ai vue la première fois, je lui ai dit plein de fois, dès que je t'ai vue la première fois, je me dis c'est elle, quoi. Je me suis dit c'était elle.
Vous vous souvenez de quoi était faite votre première impression? Qu'est-ce qui vous a touché à ce point chez elle?
Oh, son regard, son sourire. Franchement, c'était dès qu'elle a ouvert. En plus, c'était tout à fait par hasard parce que j'avais pris sur l'annuaire. Franchement, par hasard,
oui.
La plus proche. Et quand elle est arrivée, dès qu'on s'est vu, c'était... C'était magique. Après, on a échangé pas mal de temps par SMS pendant un mois, deux mois, trois mois.
Oui, oui.
Je l'ai vu qu'au bout de trois mois, très, très longtemps après. Et quand je suis allé chez elle, et ben voilà, c'était le premier baiser. C'était tout ça, quoi. C'était voilà, franchement, c'était plus fort que nous, quoi. Et oui, et puis je pense que c'était les deux côtés, quoi.
Oui.
Je pense, elle me l'a dit plein de fois. Elle me dit, quand je t'ai vu, c'était pareil pour moi. On a le cœur qui a battu très vite, quoi.
C'est ça, voilà. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre, et on sait bien que c'est des choses qui existent.
Oui.
Pas que dans les romans.
Et elle me disait au début, bon, quand je suis mariée, je peux pas aller aussi loin avec toi. Et puis voilà, puis j'ai insisté, et puis ça s'est fait, quoi. Même si je regrette rien, franchement, des moments comme ça, on peut pas les regretter, c'est pas possible.
Oui, bah oui, c'est beau.
Franchement, oui. Voilà, tout est magique, franchement. Oui. Même en secret, bah, c'est des moments... Il n'y a pas de mots, quoi.
Oui, franchement, c'est ça, c'est l'affinité.
Je l'aime d'une force... Voilà, on n'y a même pas de mots pour dire combien je l'aime, quoi. Et passer autre... Voilà, j'ai essayé de passer à d'autres personnes, mais j'y arrive pas. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de désir, il n'y a pas tout ce que je ressentis avec elle, quoi. C'est pas possible.
Oui, bah oui. Et c'est inévitable que dans ces cas-là, on compare. Ça ne peut pas être autrement. Quand on connaît des sentiments aussi forts et puis certainement une affinité très grande, on a beau se dire que c'est une autre histoire, on compare inévitablement. Enfin, ne serait-ce qu'en termes d'intensité.
Oui. Elle me manque terriblement. Le soir, j'ai envie de la voir dans mon lit, quoi. J'ai envie de la voir à côté de moi. J'ai envie de la retrouver le soir quand je rentre de travailler. J'ai envie de la voir le matin. C'est un truc de fou. On met 30, 40 SMS par jour.
Ah oui, en effet. Ah bah oui. Donc elle est complètement présente dans votre vie.
Ah, toujours.
Vous vivez ensemble d'une certaine manière. Enfin, toute la journée est scandée par la présence de l'autre.
Quand j'ai essayé de... Il y a une fois où j'ai essayé de ne pas lui mettre de message pendant une matinée, on va dire... Et ben après, c'est une rafale. Elle me dit, pourquoi tu réponds pas? T'en as marre de moi? Pourquoi tu me réponds pas? Je t'aime. Et voilà, des trucs comme ça, quoi.
Oui.
Puis moi, je craque parce que, voilà. Bon, attention, j'en mets pas, mais j'ai tellement l'envie, et là, d'en mettre des messages. Donc, c'est fou, quoi. Franchement. Et là, elle est en instance de divorce. Elle a fait tous les papiers, tout ce qu'il faut. Mais bon, il la bloque sur pas mal de choses, sur la maison, sur les enfants.
Quand vous dites qu'elle est en instance de divorce, ça veut dire que sa décision est prise de divorcer ?
Comment ?
Quand vous dites qu'elle est en instance de divorce, ça veut dire que elle, sa décision est prise ?
Ah oui. Ah oui, elle me l'a dit. Elle me l'a dit, elle m'a dit enfin, je l'ai encore vu aujourd'hui d'ailleurs.
Oui.
Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as envie, quoi ? De quoi t'as envie ? Et puis elle me dit, ce que j'ai envie, c'est d'être avec toi, chaque soir et puis tous les jours. Et donc, le truc du divorce, elle l'a ouvert il y a quelques mois déjà.
Oui.
Et ce qu'elle veut, c'est ça, elle est claire. Elle m'a dit, quand je le vois, je peux plus. Elle dit, je peux plus supporter, quoi. Ils étaient mariés depuis 22 ans, 21 ans.
Oui. Et quand vous avez commencé la relation avec elle, vous avez une idée de ce qui n'allait pas dans son couple à elle et de la place que ça vous donnait dans sa vie ? Vous avez une idée de ce qui se passait pour elle ?
Au début, je l'ai un peu dragué, pour être vulgaire, comme un jeune con. Voilà, je me suis dit, ce sera une fois, deux fois, et puis après, je la verrai plus. Et puis, je me suis très vite pris au jeu, quoi.
Oui, vous êtes tombé amoureux.
Une fois, deux fois, ouais, franchement, oui.
Oui.
Et je pensais pas que ça aurait été jusque-là, et elle non plus. Elle non plus.
Et elle, comment elle voyait les choses au début ? Elle vous a dit ce qui se passait dans son couple ? Pourquoi elle pouvait.
Elle s'ennuyait.
Elle s'ennuyait
beaucoup.
Oui.
Il n'y avait plus, ce qu'elle m'a dit, il n'y avait plus de magie dans son couple, quoi. Elle était juste là pour s'occuper des enfants, faire le boulot, et puis travailler, puis nettoyer la maison, quoi.
Quel âge ont ces enfants ?
Ils sont ados. Ils ont 14 et 15 ans.
Oui, donc c'est pas des enfants en bas âge. C'est peut-être pas...
Non, voilà.
C'est quand même...
Donc elle en a parlé avec ses enfants.
Oui.
Et ses enfants lui ont dit, le principal, c'est que tu sois heureux ce moment, quoi. Voilà, quoi. Simplement. Parce qu'ils ne supportent plus trop l'ambiance dans la maison. Parce que forcément, depuis qu'il nous a vus, l'ambiance dans la maison chaque soir, c'est pas top, quoi. Voilà, forcément.
Et lui, qu'est-ce qu'il espère en la bloquant comme ça ? qu'est-ce qu'il veut pour la suite de leur couple?
Moi, je pense que c'est un petit peu une vengeance. Je ne sais pas s'il se doute que je suis encore là ou pas, mais ouais, c'est une vengeance pour pas qu'il refasse sa vie, je pense.
Vous pensez que c'est voilà. Pas que lui, il est dans une position plutôt d'amour. Il lui dit.
Ce que je lui ai dit cet après-midi, je lui ai dit, est-ce que tu ne penses pas? Parce que je dis n'importe quel homme qui nous aurait vu, voilà, dans la condition où on était tous les deux, je pense que 8 jours après, il aurait fait ses valises, c'est parti. Et il me dit non, je lui dis, je ne pense pas que ce soit. De l'amour, elle dit quand il me regarde, c'est plus des yeux de l'amour, quoi. Enfin, il me regarde avec des yeux un peu de haine, même. De ce qu'elle me dit, elle, de ce qu'elle vit, elle me dit non, elle dit je pense pas que ce soit de l'amour, je pense pas qu'il essaie de me retenir par amour, quoi. Parce qu'elle dit qu'il, voilà, qu'il lui, il lui a déjà dit de toute façon qu'il lui pardonnerait jamais ce qu'elle a fait.
Oui, donc lui, il n'envisage pas de refonder le couple, d'essayer de refaire une histoire d'amour. Il est peut-être plutôt dans la possession, peut-être qu'il considère qu'elle est à lui et qu'il ne veut pas la laisser partir.
Aussi. Oui. L'orgueil aussi, je pense. Mais moi, je lui ai dit, je pense que n'importe quel homme t'aurait quitté depuis, en ayant vu. Donc, et s'il te bloque comme ça, c'est qu'il y a une raison, quoi. Moi, c'est ce que je ressens au fond de moi. Après, elle me dit que non, mais.
Des raisons, il n'y en a pas une multitude. Il y a effectivement soit l'amour en se disant que même après cet épisode-là, il préfère pardonner et essayer de refonder le couple par amour. Donc ça, c'est une des raisons. Ça peut être aussi du côté de la possession. C'est s'il considère que c'est sa femme, qu'elle est à lui. Ça peut arriver aussi.
Moi, je pense que c'est plutôt ça,
ouais. Oui. Mais,
vous avez raison.
En revanche, comment ça se fait, David, qu'il ait le pouvoir de la bloquer? Parce que vous dites, elle a un métier, donc elle gagne sa vie. Les enfants sont... Voilà, vous l'avez dit. Ses enfants, à 14-15 ans, un père ne fait pas ce qu'il veut de ses ados. C'est-à-dire qu'à 14-15 ans,
il peut être assez violent, parfois. Je pense que c'est de la peur aussi qu'elle a.
De quoi a-t-elle peur, au juste? Parce que lui, que peut-il faire dès lors qu'elle gagne sa vie et que ses enfants comprennent leur mère, donc n'ont pas l'intention de rompre avec elle?
Dans son histoire, c'est qu'elle a... Enfin, les deux enfants qu'elle a, c'est deux enfants adoptés. Et elle a perdu une petite fille quelques années auparavant. Et je pense que ça les a soudés beaucoup. Et puis, elle a un autre fils.
Elle a perdu une petite fille à la naissance ou c'était...
Elle avait 6 ans.
Oula.
Voilà. Donc je pense que ça les a soudés énormément.
Oui.
Et je pense que ça revient toujours. Il y a encore un fils, leur fils, il a 25 ans. Et les deux enfants qu'elle a, c'est des enfants adoptés. Et je pense que la petite fille qu'ils ont perdue, ça les a liés beaucoup.
Oui.
Beaucoup.
Oui.
Il lui a déjà reproché d'ailleurs, quand il nous avait vus. Il nous avait dit que c'était, voilà, il lui avait dit que c'était une honte de faire ce qu'elle avait fait en ayant perdu leur petite fille et tout ça. Il lui a toujours reproché ça, toujours. Il lui a toujours reproché, il a toujours dit que c'était de sa faute à elle si la petite était partie, quoi. Voilà, je pense que ça, c'est une grande déchirure qu'ils ont eue et voilà, ça sent mal, quoi, voilà. Et,
manifestement,
elle a un peu perdu sur tout ça, quoi.
Ils ont traversé des épreuves ensemble. C'est que je suis
plus.
Voilà, le deuil, c'est une épreuve terrible. Peut-être l'adoption aussi, parce que l'adoption, ça peut être un parcours du combattant. Peut-être qu'ils ont aussi traversé ça ensemble.
C'était des petits, ces enfants haïtiens.
Oui.
Cette bagarre-là, enfin, ce combat-là, ils l'ont fait aussi à deux. La petite, il l'a perdu quelques années avant. Et. Je pense que tout ça, ouais, ça les a liés aussi.
Oui.
Et moi, je suis arrivé là, je suis arrivé là.
Comme le magicien, si je reprends votre terme.
Ouais, on peut dire ça.
Oui.
Mais mon Dieu, qu'est-ce que je m'en suis voulu le jour où ça s'est passé, j'étais très mal, très très mal. Et je lui ai dit que je m'en veux encore, quoi, parce que bon, c'est de ma faute, quoi, tout ça. C'est le jour où il nous a surpris, c'est vrai que c'était horrible.
Oui, ça, vous avez vécu quelque chose de terrible. Mais là, vous n'étiez pas seul à organiser ce moment, j'imagine.
Non.
Bah oui. Et puis, David, je comprends votre sentiment de culpabilité, ça vous honore, ça indique que vous avez un sens éthique, mais je suis pas sûre que laisser cette culpabilité vous écraser, ça aide à trouver les issues. Parce que d'après ce que vous dites, cette femme vous aime. Elle vous aime tellement qu'elle ne peut pas se séparer de vous, même quand elle est dans la peur et même après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Mais la rupture a l'air compliquée. On peut quand même se demander, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il n'y a pas d'autres motifs que simplement l'intimidation. D'abord parce que vous dites que le mari vous a surpris il y a 2 ans, il s'est quand même passé 3 ans avant. Donc,
J'ai déjà posé la question.
Ben oui, 3 ans, ça, déjà elle est restée 3 ans sans pouvoir partir avant même que son mari ne le découvre, donc que c'est, que c'est forcément pas si simple. Non, moi, l'hypothèse que j'ai, vous allez me dire ce que vous en pensez, il me semble qu'il y a quelque chose qui lie ce couple, donc cette femme et son mari, qui manifestement n'est pas du sentiment amoureux, ni de son côté à elle, ni de son côté à lui, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils réagissent en amoureux, mais il y a un lien entre eux qui tient certainement à ce qui peut lier des compagnons de malheur, ou deux soldats, enfin on peut imaginer ça comme ça. Et ça, c'est un lien assez complexe. Et je me demande si elle... d'abord, est-ce qu'elle en est tout à fait consciente? Et est-ce que, si c'est oui, elle oserait vous en parler? Est-ce qu'elle oserait vous dire que vous parlez de son deuil, du deuil de cette petite fille, de...
Elle m'en a déjà parlé, oui.
Oui, qu'est-ce qu'elle en dit de ça?
Elle m'en a déjà parlé, elle m'a dit que... C'était une blessure. Des fois, elle m'appelle quand elle est devant sa tombe. Et elle m'appelle, elle pleure, et elle va m'entendre quand elle est là, quoi. Ça lui fait du bien quand je suis là avec elle, même au téléphone. Et oui, c'est une douleur qui, à chaque anniversaire, quand je sais que la date arrive, je sais qu'elle va m'appeler en pleurant.
Un parent en deuil est inconsolable. Ça, il peut vivre avec sa peine, mais il y a quelque chose d'inconsolable dans un deuil d'enfant.
Et quand je suis allé chez elle la première fois et que j'ai vu la photo, moi je ne la connaissais pas plus que ça, donc j'étais un peu maladroit, mais quand j'ai vu la photo, j'ai dit « c'est ta fille », elle me dit « oui, mais elle n'est plus là ». Ça a été... enfin, moi, ça, voilà, je ne savais pas, quoi. Je ne savais pas plus que là, ça m'a... Voilà, je me suis dit, voilà, j'aurais dû me taire, mais voilà, j'ai vu les photos, je lui ai dit, je ne pensais pas que c'était ça. Et à chaque date d'anniversaire, c'est vrai qu'elle est toute chamboulée, quoi. Elle ne sait plus. Et bon, voilà, je la comprends, quoi. Elle m'a expliqué, oui, sa maladie qu'elle avait, elle m'a expliqué tout ce qu'elle a passé avec elle, oui, tout ça, je sais
beaucoup. Oui, donc elle vous parle beaucoup, elle se confie énormément à vous.
Énormément.
Oui.
Énormément. Quand elle n'est pas bien, elle aime m'entendre. Elle aime m'entendre parler parce que je suis bavard. Des fois, je parle très longtemps. Et elle me dit, j'adore t'entendre, ta voix. J'adore, voilà. Elle est perdue. Quand, et je lui ai déjà demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que ça te ferait si, si je retrouve quelqu'un et si je refais ma vie? Elle me dit, je ne peux pas te laisser... je lui ai dit, je ne peux pas t'interdire. Elle dit, bien sûr que ça ferait du mal. Mais elle dit, je peux pas, voilà. Elle dit, ça fait 6 ans, quasiment 6 ans. Elle dit, je me sens déjà coupable de t'avoir fait perdre 6 ans de ta vie. Et elle dit, je peux pas t'interdire de retrouver quelqu'un. Mais elle dit, bien sûr que ça ferait du mal au cœur, quoi. Quand elle me dit ça, je craque. Voilà.
David, est-ce que vous vous sentez tout à fait prêt à vivre avec elle parce que vous avez passé 6 ans dans une autre forme de vie? Est-ce que vous, c'est votre désir entier ou est-ce que vous avez des appréhensions à l'idée de passer à la vie commune? Comment vous ressentez les choses?
Les appréhensions, ça servirait plus des enfants. Je pense que les enfants ne m'acceptent pas parce qu'elle me dit que sa fille est très proche de son père, donc je pense que les enfants, ça serait un peu...
Ça, c'est pas ce qu'ils ont dit, apparemment, parce qu'ils ont dit, ces enfants adolescents, ils ont dit que ce qu'ils souhaitaient, c'était le bonheur de leur mère. Ils sont courants, déjà.
Mais bon, elle m'a dit que la fille était très proche du papa, donc je pense que... Puis le grand, aussi, il a quand même 25 ans. Je ne l'ai jamais rencontré, depuis 5 ans.
Mais à 25 ans, il a sa vie maintenant. Je suis pas sûre que ce soit déterminant.
Les enfants, je les connais déjà. C'est plus ça qui me fait peur. Après, le reste, vivre avec elle, bon, j'en ai envie. C'est clair.
Alors, dans ce que j'entends, David, d'abord, ce que j'entends, c'est que à côté de la souffrance du manque, il y a beaucoup de culpabilité dans l'histoire que vous avez avec
elle. Surtout de ce moment où il vous a vu, quoi. Ça, c'est... vous savez, quand j'ai croisé son regard, franchement, ça m'a... Il avait un regard... enfin, je sais pas, je ne comprends pas comment expliquer, mais... Ça m'a fait bizarre, quoi. C'était horrible, son regard. Je me souviens, si ça fait plus de 2 ans, je l'ai encore en tête, comme si c'était hier, quoi.
Oui. Alors, je comprends le côté... traumatique que ça a pu avoir, surtout pour quelqu'un qui, comme vous, d'évidence, a un sens éthique. Mais est-ce que c'est bien l'essentiel dans l'histoire? Parce que finalement, c'est une scène horrible, mais ça n'a rien changé à l'ensemble de l'histoire.
C'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Ça n'a pas, à part le fait qu'il est au courant que lui, il sait qu'il y a un danger d'être quitté. Mais à part ça, toutes les données du problème étaient déjà là avant.
Ça faisait déjà 3 ans que je connaissais déjà avant.
Pour moi, vous savez, l'idée que j'ai, c'est que vous avez dit à plusieurs reprises que la femme que vous aimez est perdue. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans la continuité, dans le prolongement du deuil. C'est que probablement, dans le prolongement de ce deuil d'enfant, dont manifestement elle est inconsolable, elle le manifeste, quelque chose qui la lie au père de ses enfants. Donc c'est pas un lien qui est forcément du côté du vital, de l'amour, mais c'est un lien.
C'est toujours ce qu'elle me dit.
Oui.
Elle me dit toujours, c'est plus quelqu'un que j'aime, c'est le père de mes enfants.
Et peut-être le père de la petite fille disparue. Donc, moi, je pense que ce qui pourrait dénouer les choses, c'est éventuellement qu'elle se fasse aider. Parce qu'imaginons qu'elle puisse aller en thérapie, même pas longtemps, on ne parle pas là d'une analyse au long cours, on parle de quelque chose qui pourrait mettre du jeu dans la situation. Parce que là, actuellement, la situation est verrouillée. Elle est verrouillée parce que le mari ne bouge pas, alors qu'effectivement, on aurait pu imaginer qu'il bouge. Elle n'arrive pas à le quitter. Et entre vous deux, il y a beaucoup de culpabilité et il y a cette scène traumatique. Je pense qu'il s'agit de remettre du mouvement. Et moi, je pense que ce qui peut remettre du mouvement, c'est qu'elle puisse prendre conscience du fait que peut-être, dans ce qui l'empêche d'assumer la rupture avec son mari, il y a ce lien qui vient du fait qu'il partage la parentalité de cette petite fille disparue. Ça peut arriver. Et si elle fait ce chemin en thérapie, d'abord, ça remet du mouvement. On ne sait pas ce qui va se passer pour vous, on ne sait pas ce qui va se passer avec son mari, mais il s'agit là de remettre du mouvement, parce que je crois que le pire des scénarios, c'est l'homéostase, le statu quo, qui génère beaucoup de souffrance pour elle, pour vous, pour...
Oui. C'est ce qu'elle me dit. Elle pleure aussi.
Ça met de l'ombre au fond sur la magie de votre histoire. Et je crois qu'elle, si elle arrive à se faire accompagner pour ce deuil, peut-être qu'elle verrait d'une autre manière la relation avec son mari. Peut-être qu'elle verrait d'une autre manière ce qu'elle pense être une loyauté obligatoire. Peut-être même envers sa petite fille disparue. On ne sait pas ce qui peut se passer dans des cas comme ça. Donc, je crois qu'il y aurait tout à gagner à ce qu'elle puisse l'envisager. Est-ce qu'elle y a pensé déjà? Vous pensez, elle est dans le milieu médical, vous pensez qu'elle serait ouverte à la chose d'aller voir quelqu'un?
Non, je ne pense pas qu'elle y ait pensé. Je ne pense pas.
Pourquoi, votre avis?
Je ne pense pas qu'elle me dirait que c'est ça le problème. De elle, Mais
ça s'appelle l'inconscient, vous savez. C'est que parfois les raisons les plus profondes que nous avons, peut-être qu'elle prend pas la mesure elle-même. Parce que, voyez, si on regarde la partie rationnelle, au fond, vous avez une femme qui gagne sa vie, donc qui peut pas être dans une situation financière impossible. Ça peut être dur pendant un moment, mais voilà.
Elle gagne très bien sa vie.
Voilà, elle gagne sa vie, ses enfants, l'aîné a 25 ans, il a sa propre vie. Les adolescents ont dit qu'ils voulaient que leur mère soit heureuse et ils vous connaissent. Donc même si elle, rationnellement, elle dit que c'est le fait qu'il la bloque que
oui,
qui bah, empêche.
C'est ça, j'ai aussi déjà posé la question.
Bah oui, on peut pas imaginer qu'il ait le pouvoir de la bloquer à ce point. C'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a qui est pas forcément de l'amour, hein, mais c'est qu'il y a ce quelque chose qui la retient. Et moi, je pense, puisque le terme revient souvent dans votre discours, que c'est du côté d'une culpabilité. Oui, ça peut être ça, de laisser seul le père en deuil de cet enfant avec elle.
Mmh. Moi, je pense que c'est ça.
Oui.
Je pense qu'il n'aurait pas eu cet enfant perdu, comme ça.
Oui.
Je pense que ça, je pense qu'elle prendrait la décision un peu plus facilement et qu'il se laisserait aller un peu plus facilement, quoi.
Mais ça, vous savez, ça peut vraiment bouger dans une thérapie. On ne sait pas ce qu'elle déciderait, parce que bon, c'est sa liberté de la thérapie.
Bah, elle me dit toujours, voilà, elle m'envoie un petit message aujourd'hui, elle me dit que je t'aime fort, je ne peux pas faire sans toi. Ouais, mais je dis, voilà, je dis, tu peux faire sans moi, mais tu n'arrives pas, quoi. Tu n'arrives pas à avancer, et puis quand je dis ça, bah, elle pleure. Voilà.
Est-ce que vous vous sentiriez de le lui suggérer, de dire, écoute, on est tous les deux... Avec nos ressources en propre, on est tous les deux bloqués dans cette situation, on n'arrive pas à la faire bouger. Qu'est-ce que tu penserais de l'idée d'aller voir quelqu'un ou qu'on y aille ensemble? Parce qu'il y a aussi des thérapeutes.
Je pense pas que c'est fermé.
Ouais.
Je pense pas, parce qu'on est ouvert sur pas mal de sujets, on parle de tout.
Oui.
Ah,
je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est parce que il peut y avoir une question de deuil, parce que ça, de toute façon, c'est son travail à elle. Si le thérapeute pense qu'il y a quelque chose comme ça, il passera pas à côté. C'est simplement de lui dire que vous pensez que l'inertie, c'est la source de souffrance pour tout le monde, et que peut-être pour mettre du mouvement, pour essayer de réfléchir à ce qui arrive, essayer d'inventer des solutions nouvelles, de se déplacer par rapport à la façon dont on voit la question, qu'elle puisse aller en thérapie, ou que vous y alliez ensemble, ou que vous y alliez chacun de votre côté. C'est envisageable,
ce
hein, parce que pour commencer...
Ce serait pour le bonheur de l'avoir à côté de moi, ce serait... non, franchement, quoi.
Écoutez, ça peut être une bonne raison de commencer, mais je pense que ça
vois,
peut être une façon de...
C'est du bonheur, quoi.
Ben oui, j'entends bien. Donc peut-être, David, vous pouvez le lui suggérer, puis voir ce qu'elle dit, mais je pense que ça peut être une ouverture.
J'ai peur au début, c'est un peu la différence d'âge, parce que je suis beaucoup plus jeune qu'elle.
Et 10 ans, vous avez dit, c'est ça?
Ouais, un peu plus, même 12 ans.
12 ans.
Elle a 54, j'en ai 42.
Et vous avez des enfants, vous?
Moi, je n'ai pas d'enfant, non. Non, j'étais, bah, quand je l'ai rencontré, donc j'étais célibataire. Elle me dit au début par SMS, ouais, elle m'a dit, tu sais, je suis mariée, tout ça, et puis j'ai insisté tout le temps, et j'ai pas arrêté. Des fois, elle me répondait plus, bah, je dirais, voilà, je revenais vers elle, et voilà, force à craquer, quoi.
Peut-être que dans son esprit, c'est une question aussi, la différence d'âge, peut-être aussi au regard des enfants, puisqu'elle sait que vous n'avez pas d'enfants et que vous ne pourriez probablement pas en avoir ensemble, sauf à adopter.
Sauf à adopter, oui.
Oui. Comment vous voyez cette question-là, vous?
Tu pourrais trouver beaucoup mieux, beaucoup plus jeune. Si c'est pas beaucoup plus jeune, ou voilà, je dis, c'est pas ça que je cherche. Elle dit, c'est toi, c'est tout. Voilà, je cherche pas des filles plus jeunes. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà, je dis, c'est sur toi, voilà, c'est toi que j'aime. Donc, j'ai pas de raison d'aller chercher ailleurs. Et c'est toi ce qu'elle me dit. Et c'est vrai que, bon, voilà, dès que je l'ai vue.
Oui. Puis là, il y a de quoi la rassurer. Il y a une stabilité quand même. Presque 6 ans, c'est une durée maintenant.
Bah, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si je t'entends plus 6 ans, c'est pas pour aller voir ailleurs au bout de 6 ans, quoi.
Mmh. Et bon, il peut y avoir des peurs quand même, surtout qu'elle sait que vous n'êtes pas père. Donc elle peut craindre qu'elle soit responsable du fait que vous ne puissiez pas connaître une paternité biologique.
Elle me dit.
Ben oui. Alors, puisqu'il y a tout ça, peut-être c'est pas une mauvaise idée d'aller en thérapie ensemble à ce moment-là. Pour que ces questions puissent peut-être s'aborder sous un angle nouveau.
Je pense. Merci.
David, vous souhaite la meilleure des continuations. Prenez
merci,
soin de vous, parce que j'entends.
La première fois que je parle de suite avec vous, c'était très agréable. Merci beaucoup. J'avais déjà
avec
appelé Caroline il y a
grand
quelques
plaisir.
Temps.
Avec grand plaisir.
C'était déjà pour ça, d'ailleurs, j'avais appelé Caroline. Et là, bon, c'est vrai que ça va encore avancer encore plus, donc j'ai besoin de parler ce soir.
Ah, tant mieux, tant mieux. Ben, n'hésitez pas, David, vous connaissez le téléphone, 09 69 39 10 11,
avec
si vous
Sarah,
souhaitez.
Sarah, qui est très, très agréable et qui accueille très bien.
Ah,
voilà,
Sarah, c'est un bijou.
Ah, elle est adorable. Regardez-la, franchement, elle est adorable. Ah, tu vois, elle vous met en confiance à mon moment.
Je la vois, là, elle est à côté, elle a ses grands yeux bleus émus.
voilà, quand on avant d'arriver à l'antenne, c'est vrai qu'on angoisse toujours un petit peu. Elle me dit, vous êtes le premier à passer. Waouh, je dis le premier, ouais, c'est angoissant. Mais bon, elle me met tellement en confiance que ça...
C'est vrai.
Elle est adorable.
Eh bien, je vous souhaite un bel été, David. Continuez bien, prenez soin de vous.
Et merci beaucoup.
Avec plaisir. Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Et parlons-nous continue sur RTL. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Si vous avez pour votre vie une question qui vous tient à cœur ou vous tourmente, n'hésitez pas. Il y a toujours des solutions car un être humain est fait pour évoluer et inventer. Rien qu'en parlant, parfois en thérapie, parfois en parlant tout court. Le numéro, vous le connaissez, 09 69 39 10 11. Et toujours, vous pouvez réagir par SMS au 64 900, code RTL, et la page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Martine, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir ?
Je souhaite vous parler de ma fille.
Oui.
J'ai une fille adorable qui est âgée de 26 ans.
Oui.
Qui est jeune mariée. Et avec laquelle j'ai malgré moi des rapports difficiles au jour d'aujourd'hui.
Oui.
Parce que je vois la situation se dégrader et j'ai peur pour elle.
Oui.
Alors, elle travaillait dans une grosse société de la région.
Oui.
Elle a rencontré un garçon avec qui elle s'est paxée. Ça, c'est l'ordre normal des choses.
Oui.
On ne l'a pas su. Son père et moi, on ne l'a pas su.
Vous n'avez pas été conviée, pas informée?
Non. On l'a su a posteriori. Bon.
Oui.
Soit.
Vous connaissiez le jeune homme quand même ou...
Non.
Ah oui.
Par oui dire.
Bon.
Et donc, dans les 6 mois qui ont suivi, ils se sont mariés.
Oui.
Ils se sont mariés et depuis que ma fille a entamé cette relation avec ce garçon, elle a pris 30 kilos.
Ah bon ? En un an, vous voulez dire ?
En un an, en 15 mois, on va dire.
Oui.
Et donc, j'estime que c'est une alarme. Alors, j'ai au départ crié un peu au loup en disant « tu manges trop, bon ». Et puis, essaye de faire un régime, j'ai pris un abonnement chez Weight Watchers, j'ai tout essayé, il n'y avait rien qui marchait.
Elle a fait des examens médicaux pour savoir s'il n'y avait pas un problème, un problème physique ?
Il n'y a pas de problème physique.
Ah.
Non.
Vous pensez qu'elle est boulimique ?
Je pense qu'elle est dans une situation...
Qu'elle a des crises de boulimie ?
De conflit intérieur.
Oui.
Elle est dans une situation de conflit intérieur et je n'arrive pas à l'aider parce que mon discours ne passe pas.
Quel discours lui tenez-vous ? Que lui dites-vous ?
En fait, l'historique, c'est que crise sanitaire oblige, tous les deux étaient dans une grosse société... qui a procédé à des allègements en personnel, on va dire. Donc, ils ont profité d'un départ volontaire.
Oui.
Ils sont donc mariés, jeunes mariés, installés correctement.
Oui.
Et sans emploi.
Donc, à la maison, enfin, on l'était à tous à certains moments, mais en tout cas...
Oui, oui. Voilà. Et donc, ils ont déménagé parce que la vie a fait que le déménagement était devenu une nécessité parce que le bail de l'appartement de ma fille prenait fin.
Oui.
Et ils se sont déplacés vers la famille de mon gendre.
C'est loin, ça ? C'est à combien de kilomètres ?
Une cinquantaine de kilomètres, ça fait 1 heure de voiture, on va dire.
D'accord.
Et donc, si vous voulez, c'est un clan. C'est un clan. Je n'ai rien contre ce clan-là. Absolument rien. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que ma fille soit heureuse.
Oui.
Et j'estime que après un an de mariage, une prise de poids de 30 kilos, c'est une alarme.
Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous étiez au mariage ou vous avez aussi été tenue à l'écart ?
Le mariage s'est fait chez nous parce que c'était juste avant le deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus. Donc, il a fallu le faire en très petit comité, ça s'est fait chez nous. Il y avait le strict minimum de personnes. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pratiquement que la famille proche, c'est-à-dire la famille de mon gendre, parce que nous, on est grosso modo, on est trois. Hein. Il y a ma fille, mon mari et moi.
Et à ce moment-là, vous connaissiez votre gendre depuis un moment? Parce que vous dites qu'au moment du Pax, vous ne connaissiez pas du tout. Oui.
Depuis 6 mois.
Quelle impression avez-vous eue en le voyant? Comment vous pourriez parler de cet homme?
Un garçon sociable, gentil.
Oui.
Gentil, oui. Mais c'est le... si vous voulez, c'est la... comment dire, d'abord la prise de poids de ma fille qui m'a alertée, parce que 30 kilos, c'est énorme maintenant.
Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous dites que vous avez écarté toutes les possibilités physiques...
Mais elle est suivie parce qu'elle a un problème récurrent. Donc elle est suivie, les examens sont bons. Elle est suivie par son généraliste et par un endocrino. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là.
D'accord.
Et d'autre part, elle nous disait qu'elle était fatiguée, que si, que là, que ça n'allait pas. Mais bon, on n'a pas prêté cas. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, j'ai fait la somme des kilos en un an, j'ai dit c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'elle en dit,
quand
elle?
Quand vous avez fait la somme des régimes et quand vous dites que... il n'y a rien qui marche, ça veut dire que le problème, il est ailleurs.
Qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Quand vous en parlez avec elle, comment elle explique qu'elle ait pris ce poids? Vous arrivez à en parler un peu?
Elle n'explique pas. Elle me renvoie la faute. Elle me dit, ça fait longtemps que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai, paraît-il, été très accusatrice. Au départ, oui, parce que quand on ne grossit pas avec de l'air, hein, on grossit parce qu'on mange.
Et ça, elle le reconnaît, votre fille, qu'elle mange?
Elle me tient rigueur de lui avoir mis le nez dans son... bon, je vais parler vulgairement, dans son caca, si vous voulez. Elle me tient rigueur du fait de l'avoir montré du doigt pendant longtemps, et c'est vrai. Et c'est vrai.
Donc, elle est fâchée parce que vous lui parlez de sa prise de poids, mais est-ce qu'elle s'exprime sur ce qui lui fait prendre du poids? Est-ce qu'elle parle de ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle est dans les sucreries? Est-ce qu'elle est...
elle dans fait tout.
Et ça, vous le voyez?
Mais oui, bien sûr.
Oui. Oui, parce que vous savez, bon, parfois, les prises de poids, c'est aussi des crises de boulimie où les personnes se cachent pour ça.
Donc, oui, on se cache pourquoi?
Pour les crises de boulimie, justement. C'est des moments, en fait, c'est hors du repas, où la personne mange tout ce qui lui tombe sous la main. Donc c'est ce qu'on appelle la crise de boulimie. Et la personne peut parfois, par ailleurs, se comporter tout à fait normalement dans les repas. Est-ce que vous pensez que c'est ça, ou vous voyez qu'elle mange énormément?
Pas du tout. Elle mange beaucoup. Elle a mangé beaucoup. Bon, maintenant, elle essaye de ralentir un peu, mais je pense que le mal est fait. Et que, de toute façon, elle dit qu'elle ne mange pas, mais je crois qu'elle ne se rend pas compte. Et elle est dans un circuit où elle est dans une impasse, à mon avis.
Et ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que pour quelque chose, pour un phénomène aussi fort, parce que, comme vous le dites, 30 kilos en un an, c'est quand même un événement de corps extrêmement fort, tout se présente comme si elle ne pensait pas les choses, c'est-à-dire elle tient pas de discours, elle ne développe pas de pensée sur la question, elle ne dit rien en fait sur les.
Elle a fait part de son mal-être au début.
Oui. Dans quel terme vous en souvenez?
En disant qu'elle était fatiguée.
Oui.
Mais bon.
Et qu'est-ce que ça voulait dire, fatiguée? Je suis fatiguée, alors je mange?
De la sténie.
Alors je mange, c'est ça qu'elle dit? C'est parce qu'elle était fatiguée qu'elle mangeait?
Mais en fait, je pense qu'il y avait une part de déni, parce que elle mangeait à table. Moi, j'étais effarée de voir qu'elle mangeait plus que son père.
Ah,
qui fait 20 cm de plus qu'elle et 30 kilos de plus qu'elle. Enfin, je veux dire, c'est. Elle mangeait beaucoup, mais je pense qu'elle était dans le déni.
Je comprends.
Elle disait qu'elle était fatiguée, mais il n'y avait pas de commune mesure, si vous voulez, entre le coup de fourchette et le fait de se sentir fatiguée. Moi, je n'arrivais pas à capter. Au jour d'aujourd'hui, je vois les choses avec du recul et je vois qu'elle est mariée avec un garçon où elle n'a plus aucune vie sociale. Elle n'a plus de vie sociale, elle n'a plus de métier. Elle est ingénieure de formation. Elle n'a plus de métier. Elle était sportive de haut niveau.
Oui.
Quand vous lui parlez de remonter à cheval, elle fond en larmes.
Et lui, vous dites qu'il se présente comme un homme gentil, sociable.
Très gentil.
Mais
trop gentil. Trop gentil.
C'est-à-dire.
Il adore sa femme, elle est dans une prison d'amour. Elle est dans une prison. Et c'est ça que j'essaye de dire. Et je suis la fée Carabosse. Je suis marquée par toute la famille parce que je dis des choses qui dérangent.
Qu'est-ce que c'est pour vous une prison d'amour? Parce que
une
vous
prison,
dites...
c'est une, dans le 21e siècle, une femme de 25 ans, elle a le droit d'aller voir des amis, de sortir, d'avoir une vie sociale, d'aller monter à cheval puisque c'est son bonheur. Elle ne fait rien.
Et vous avez vu
elle
de quelle manière il la dissuade? Est-ce que vous avez repéré des comportements de sa part à lui au moyen desquels...
Présent. Vous savez ce que c'est des gens qui sont prisonniers dans une secte. Elle est psychologiquement dépendante.
Oui,
Elle est en prison. J'ai prononcé le mot prison ces jours derniers. J'ai enfin réussi à pouvoir m'échapper, à aller déjeuner avec elle. Et je lui ai dit qu'elle était en prison et elle l'a très mal pris. Mais je ne vois pas d'autre explication que ça. Tout ce que je dis est montré du doigt. Je suis dans un tribunal actuellement parce que mon mari m'accuse de faire de la psychologie à deux balles, c'est son expression. Et ma fille me dit que je me trompe parce qu'elle adore son mari.
Et lui, et votre mari,
moi,
comment...
je n'ai pas cette conception du bonheur.
Comment il voit la situation, lui? Parce qu'il a remarqué,
évidemment,
la prise de poids.
Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il me dit que de toute façon, on n'a pas le droit d'intervenir sur la vie de quelqu'un. Et grosso modo, il est là pour récupérer les pots cassés, quoi.
Votre fille se confie à son père ou pas du tout?
Maintenant, oui, puisque le dialogue entre nous est devenu difficile. Mais elle se confie pas. Elle parle, mais elle se confie pas. Elle ne dit pas ce qui est au fond d'elle. Je pense que c'est muselé. Oui.
Je pense, Martine, que effectivement, si vous tentez de pointer son problème de poids alors qu'elle semble être dans un certain déni, et si vous tentez d'aborder frontalement la question de son mariage alors que elle se sent dans un cocon d'amour, ça n'aura pas d'effet et ça va plutôt l'amener à se braquer et à mettre de la distance. Moi, je pense que peut-être s'il y a une ouverture dans le dialogue avec elle, ça n'est pas en pointant les problèmes, c'est plutôt en l'amenant à vous dire ce qu'elle désire pour sa vie. C'est-à-dire plutôt que lui parler des problèmes. Je comprends que vous l'ayez fait en tant que mère, c'est tout à fait normal, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on tente de l'aborder, de le traiter. Mais dès lors que vous voyez qu'elle est dans un certain déni et qu'elle se vit comme dans un cocon d'amour et qu'elle ne s'interroge pas sur son mariage, je pense qu'il vaut mieux faire un pas de côté et plutôt que de parler avec elle de votre point de vue sur sa situation, lui demander tranquillement, elle qui est inactive maintenant, que veux-tu pour ta vie? De quoi as-tu envie? Quel est ton projet professionnel? Comment tu vois ton avenir?
Mais de rien d'autre que de son mari.
C'est ce qu'elle dit?
Mais oui.
Donc elle dit que son idéal de vie, c'est d'être à côté de son mari toute la journée?
Mais quand vous l'avez au téléphone, que vous lui posez une question, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose la question à son mari avant de vous répondre.
Oui, donc là, c'est extrêmement délicat. Extrêmement délicat.
Elle est psychologiquement dépendante de quelqu'un qui n'est pas elle. Enfin, je veux dire, elle ne s'assume pas en tant que personne.
Et...
Pour lui poser une question, elle ne sait pas vous répondre tant qu'elle n'a pas eu la réponse de son mari. Moi, c'est ça qui m'affole.
Je comprends. Je comprends. Et avant, Martine, quelle jeune fille était-ce? Est-ce que c'était une jeune fille...
C'était une jeune fille battante. Une battante. Elle a fait des études de très bon niveau. Elle a un diplôme d'ingénieur. Elle a fait de la compétition à cheval de très bon niveau. Elle a une jument qui est une perle. Elle a fait de très belles choses étant jeune fille. Très belles choses. Elle avait besoin de personne. Elle a fait des études à l'autre bout de la France. Elle s'est débrouillée toute seule. Elle a traversé des situations difficiles. Elle a tout assumé. Économiquement, psychologiquement, le poids des études, le mix avec les compétitions à cheval, elle a tout assumé.
Et vous savez comment était son parcours amoureux avant ? Est-ce qu'elle avait eu des histoires difficiles ? Est-ce qu'elle a eu des histoires tout court ?
Elle a eu des histoires classiques pour des gens de son âge.
Donc rien, vous n'avez rien avec noté de particulier dans sa vie amoureuse
avec des rencontres agréables et d'autres moins agréables. Mais ça fait partie de la vie, quoi.
Donc vous pensez que là, elle a fait la mauvaise rencontre, la rencontre qui la tire vers le bas et qui l'amène dans une forme de cocon qui est devenu une prison.
Si vous voulez, mon discours se heurte à un mur. Alors, mon discours est maladroit. Je le conçois. Je n'ai pas d'autre alternative que d'arriver à une période de heurte pour lui faire prendre conscience.
Mais ça, je pense, Martine, je pense que ça ne va pas fonctionner. C'est ce que vous expérimentez. C'est-à-dire que plus vous irez en contre pour essayer de battre en brèche le déni sur le poids et sur le problème de dépendance tel que vous le décrivez dans son couple, plus ça va radicaliser le déni et la défense. Et le seul dommage, il sera sur votre lien. Donc je pense que même si pour vous c'est très frustrant parce que vous aimeriez être dans une approche consistant à traiter le problème, je crois qu'il n'y a pas d'autre voie que d'essayer absolument de garder le dialogue avec votre fille, mais en faisant un pas de côté, c'est-à-dire sur des sujets sur lesquels elle consent à dialoguer. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez garder le lien, qu'au moins elle ne soit pas dans un isolement plus grand, et en espérant que ce canal avec vous étant ouvert, elle puisse finir par vous livrer quelques petites bribes. C'est souvent comme ça que ça se passe, en thérapie aussi, quand quelqu'un est très fermé. Vous voyez ?
Oui, je vois.
Martine, on va marquer une petite pause, simplement le temps des informations. Surtout, vous ne quittez pas, si vous voulez bien, nous reprenons notre échange juste après.
Avec plaisir, merci.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Et nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour toutes vos questions de vie. Pendant une heure encore, n'hésitez pas à nous appeler, soit pour réagir à ce que vous entendez, soit pour poser votre propre question au 09 69 39 10 11. Et nous retrouvons Martine, la mère qui s'inquiète pour sa fille de 26 ans qui est mariée depuis un an et qui depuis ce mariage a développé une prise de poids importante, 30 kilos, nous dit Martine, ce qui l'inquiète beaucoup. Et Martine constate par ailleurs que sa fille n'a aucune autonomie, qu'elle semble être, dit-elle, dans une forme de prison, un cocon d'amour qui est devenu une forme d'empêchement à vivre, avec une fille qui avait une carrière, qui était ingénieure, qui était une sportive de haut niveau et qui aujourd'hui ne travaille pas, ne monte plus à cheval et semble prisonnière de cette relation, ce qui angoisse beaucoup Martine. Eh bien Martine, vous êtes toujours là, je pense ?
Oui, tout à fait.
Oui, voilà. Il y a beaucoup de réactions pour vous, de soutien. Alors, il y a des témoignages sur la page Facebook. Sarah dit « Avec mon ex, c'était pareil. Je ne pouvais rien faire et voir personne. J'ai loupé des gros moments en famille. Il voulait que je déménage encore plus loin. Je me reconnais dans vos mots. Courage. C'est dur. J'ai mis du temps à en parler à ma famille. C'est dur. Votre fille a besoin de soutien. » Donc, au fond, Sarah va dans le même sens de ce qu'on évoquait toutes les deux. Elle vous encourage à ne pas lâcher votre fille et à tenter de garder le dialogue avec elle, là où elle accepte de parler.
Mais elle n'accepte pas de parler, d'autant plus que le dernier pan de l'histoire que je ne vous ai pas encore dit, oui. C'est que la famille de la belle famille est une famille à problème.
Oui, quel genre de problème ?
Une famille à problème, une famille nombreuse, une fratrie nombreuse, avec un père qui a des soucis judiciaires.
Oui.
Des soucis de pédophilie.
Ah bon ?
Avec un procès qui a failli se tenir, et la séance a été renvoyée, qui a failli se tenir il y a quelque temps, il y a quelques semaines.
Donc le père de votre gendre, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Et c'est ma fille qui est allée emmener toute la famille, mais mon gendre n'est pas venu.
Pourquoi il n'est pas venu ? Vous pensez que lui a été victime ? Quand vous parlez de...
Pas, c'était pas lui la victime, c'était son frère cadet.
Oui.
Mais, bon, ma fille me dit que s'il était venu, il aurait tué son père. Ben, je comprends qu'il y ait une réaction épidermique, bien évidemment. Mais c'est elle qui a dû faire face. Je me serais proposée à sa place, j'aurais eu la même chose, je me serais proposée bien évidemment. Mais le fait qu'il la laisse aller seule, emmener la famille, la mère et la fratrie au tribunal, alors que lui n'est pas venu, je ne le conçois pas.
C'est votre fille qui vous a dit ça, donc elle vous parle un peu quand même.
Oui.
Ouais, elle vous a quand même expliqué ça, votre fille, donc manifestement, oui. Elle ne vous tient pas à l'écart de toute sa vie.
Non, pas de toute sa vie, mais non.
Oui. Oui. Est-ce que...
Non, il reste un dialogue, heureusement.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
Mais si vous voulez, je suis en alerte et je suis un peu... Les mots me manquent, je n'arrive pas à exprimer, mais je pense qu'on est dans une situation très, très périlleuse.
Oui. Ce qui est très difficile, je comprends parfaitement votre angoisse. D'ailleurs, je vois un message de Victoria par SMS qui dit « Cette jeune femme est sous emprise, sa maman a raison de s'inquiéter, il faut les aider. » Ce qui est difficile, c'est que votre fille est majeure, qu'il n'y a rien pour le moment dans ce qui arrive qui soit de l'ordre de la loi. C'est son mari ne la maltraite pas au sens de la loi. Elle a un problème de poids, mais ce n'est pas de l'ordre de l'assistance à personne en danger qui, elle
Absolument.
Aussi, entre sous le coup de la loi. Mmh. C'est ça qui est très difficile dans cette situation. Donc vous, vous êtes en alerte maximale, je comprends tout à fait, mais sans qu'il y ait des prises en dehors de la volonté de votre fille de vous permettre d'intervenir. Il n'y a rien qui puisse se faire sans passer par elle.
Mais si je n'avais rien dit, si je n'avais pas dénoncé cet état de fait, les choses auraient continué. Au jour d'aujourd'hui, elle serait enceinte. Et je pense que la plus mauvaise idée qu'elle puisse avoir, c'est d'avoir un enfant.
Ça, c'est difficile à dire. Elle en parle, elle, d'un projet de maternité ?
Elle souhaiterait avoir un enfant.
Et qu'est-ce qui fait obstacle ? Vous dites que c'est parce que vous avez soulevé un problème.
Elle a eu un problème de papillomavirus, donc je pense que c'était pas très. Enfin, on l'a su a posteriori, hein, c'était pas le moment idéal, on va dire.
Donc ça aussi, elle vous l'a confié, c'est assez intime, elle vous l'a dit.
Elle l'a dit a posteriori.
Oui, oui. Donc c'est plutôt rassurant, Martine, de voir que le dialogue n'est pas complètement coupé avec votre fille. Quand il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre des problèmes centraux, enfin ce qui pose problème, à savoir son poids et la relation avec son mari sur laquelle vous n'avez pas le même point de vue, mais pour le reste, elle vous parle.
Oui, mais elle n'accepte pas qu'on essaye de lui ouvrir les yeux, c'est ça qui me catastrophe.
Oui, mais ça.
Elle n'accepte pas la contradiction.
Et ça, je pense que vous avez raison. C'est la difficulté qu'on rencontre aussi avec des personnes en thérapie. Parfois, on s'inquiète pour les personnes qu'on reçoit. On a l'impression qu'ils sont dans des situations difficiles, mais on ne peut pas ouvrir les yeux à quelqu'un qui, pour des raisons qui lui sont propres, a instauré un déni. La seule chose qu'on puisse faire, c'est faire confiance à la conscience humaine. On a tous des ressources vitales, votre fille aussi. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est laisser le canal de la communication ouvert, d'inviter la personne à parler d'elle. Chaque fois qu'elle le fait, c'est l'encourager à réfléchir à sa situation, éventuellement en pointant des choses, c'est-à-dire quand elle vous dit des choses du type « mon mari m'a laissé aller seule au tribunal », c'est « ah bon, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te convient ? Comment tu vois les choses ?» Enfin, c'est l'interroger pour qu'elle puisse déployer une pensée par rapport à ça. Il faut parfois une patience infinie en thérapie, on sait bien, mais il n'y a pas d'autre moyen que de compter sur la conscience de quelqu'un, et la conscience c'est corrélé aux forces vitales, c'est qu'on a tous en nous la possibilité de prendre conscience de ce qui nous met en danger, parce que tous nous désirons vivre en dernier ressort. Et mais donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen, mais ça requiert de votre part beaucoup, beaucoup de patience.
Je comprends bien.
Oui. Martine, on ne peut que vous souhaiter bon courage dans cette épreuve, en espérant qu'à force de persévérance, un jour quelque chose puisse s'ouvrir. Ce qui arrive en matière de liens humains, les choses sont imprévisibles et ça peut tout à fait s'ouvrir à un moment donné, je crois.
Eh bien, je l'espère.
Oui.
Bon courage. Je n'ai pas du genre à me décourager.
J'entends que vous... Oui, j'entends. Donc, bon courage à vous, Martine. Et puis, je vous transmets à nouveau le soutien de d'autres mères qui comprennent votre position et votre inquiétude.
Merci beaucoup. Merci à elle.
Au revoir, Martine.
Merci. Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous.
I do it for you, sport, sur RTL.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h17 et il nous reste plus de 40 minutes ensemble, alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Sarah et Colin vous accueillent en direct au standard. Et si jamais vous nous appelez plus tard, n'hésitez pas à nouveau. Le répondeur est là pour prendre vos appels. Et à nouveau, Sarah et Colin vous rappelleront lundi et écouteront votre question. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Sabine.
Eh bien, je vous écoute, Vincent.
Tout d'abord, merci pour vos émissions. Et vous êtes une personne d'une qualité d'écoute, de même que Sarah. C'est très gentil, très remarquable.
Merci beaucoup.
Vous respirez la bonté.
Ah, je suis très touchée par ce que vous dites. C'est vrai que je mets beaucoup de cœur dans ce travail, on peut l'appeler comme ça, même si c'est aussi un plaisir. Donc, je suis très touchée de ce que vous dites et je suis heureuse que ça passe, en fait, que vous l'entendiez.
Ah oui, 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 c'est ça passe crème. Les deux dernières fois, j'avais eu Paul, qui est très gentil aussi.
Oui, oui. Mais toute l'équipe est sincère,
ah,
on aime beaucoup cette émission, elle nous tient à cœur. Et chaque soir,
c'est...
Oui. Et chaque soir, c'est une aventure différente, puisque aucun témoignage ne se ressemble, aucune question, aucune personne non plus. Donc merci beaucoup. Et vous, Vincent, de quoi vous souhaitez nous parler ?
Moi, je souffre. Je vous appelle parce que j'ai beaucoup donné. Beaucoup donné en amour,
oui.
Mais j'ai très peu reçu. Je souffre de solitude. J'ai eu deux relations différentes, enfin, avec des personnes différentes.
Oui.
Donc, les deux dernières, dont une avec une personne de couleur, mais peu importe, c'est pas ça le problème. Et enfin, cette dernière, je devais tout acheter.
Oui.
C'est ce que j'avais dit la dernière fois que je devais. J'étais passé l'antenne.
Oui.
Je devais tout acheter. Enfin, à chaque fois qu'on allait dans un magasin, il fallait toujours sortir avec quelque chose. Oui, mais tu n'aides pas, tu ne fais rien pour moi, pour mes enfants. Mais si, je faisais les courses. J'achetais parfois des choses pour la maison ou autre.
Oui.
Et avec cette dernière, je pensais que elle n'était pas véhiculée, mais en se voyant plus souvent, eh bien, que c'était bon d'avoir un véhicule, elle m'avait réclamé. J'avais trouvé une voiture.
Oui.
Pour elle. Et puis, on se voyait, mais pas plus qu'avant.
Oui.
Alors moi, un jour, j'ai baissé les bras, j'ai dit non, je ne veux plus d'une relation comme ça. On ne base pas la relation amoureuse sur l'argent de l'autre. On n'achète pas l'amour. avec l'argent.
Non. En dehors de ces questions vraiment qui se traitaient de façon très désagréable pour vous, vous sentiez des sentiments de sa part ou comment vous vous sentiez dans le lien amoureux lui-même ?
Des sentiments peut-être, oui, mais des sentiments amoureux peut-être, mais alors qui étaient très liés à l'argent.
Comment vous vous êtes rencontré avec cette personne?
Parce que j'ai connu sa sœur à une époque.
Oui.
Et puis, elle était plus longtemps en France. Je me suis dit que peut-être elle allait réagir différemment.
Vous voulez dire que vous aviez eu aussi une relation avec sa sœur? Une relation amoureuse avec sa sœur? Ah, oui. Qui s'était pas bien passé?
Non.
Est-ce que c'était du même ordre, le même type de problème que vous avez rencontré avec la sœur?
Oui, parce que j'avais payé le billet d'avion pour ses filles. Et puis quand elle était là, je devais tout assumer. Enfin, elle payait de temps en temps, mais alors que elle avait de l'argent qui arrivait, parce qu'il fallait que j'aille à la poste avec elle, j'ai vu avoir des sommes astronomiques dans les poches.
Oui.
Mais c'était pour amener des choses au pays, mais jamais rien pour moi. Et alors que là, je lui avais pourtant dit de ne pas prendre le téléphone fixe pour appeler au pays, mais un jour, je me suis retrouvé à plus de 900 euros de téléphone.
Oui, non seulement c'est beaucoup, mais c'est idiot, parce qu'il y a d'autres possibilités.
Oui. Et puis voilà. Et puis, bon, c'était cette dernière. Après, j'avais eu quelqu'un comme moi, tant pis si les gens me reconnaissent, mais j'avais eu quelqu'un de non-voyante comme moi, et puis j'avais tout quitté pour cette dernière aussi, qui avait pris une année sabbatique. Et puis, j'étais parti la rejoindre, et puis bon, c'est vrai, j'étais loin de ma famille, mais avec elle, je devais tout quitter.
Oui.
J'ai dit, mais pour l'instant, je veux voir où je m'engage. On peut pas tout quitter comme ça avant
de bien se connaître, bien sûr.
De bien se connaître, et puis il faut garder quand même des liens avec la famille, je suis désolé. Et bref, ça s'est plus ou moins bien passé.
Et pourquoi elle vous demandait de tout quitter, Vincent? Simplement pour des raisons géographiques ou il y avait autre chose?
Oui, parce qu'elle voulait que je sois avec elle chez elle.
Et c'était loin, ça?
Ah ben, c'était à 800 km de chez moi.
Donc là, elle semblait plutôt dans une position amoureuse. Vous l'avez compris comme ça? Elle voulait vous avoir tout le temps près de vous. Ça ressemblait davantage à une relation d'amour, non?
Ça, c'était la deuxième. Ça,
oui,
la deuxième.
Oui. Donc entre les deux sœurs, si je vous ai bien suivi.
Oui.
C'est ça. Et là, donc, manifestement, c'était plus amoureux comme relation.
Ah oui. Parce que là, il n'y avait pas de profit d'argent.
C'est ça.
Bon. Mais elle a voulu me redonner une seconde chance. Elle me dit, oui, j'ai peut-être mal agi. Parce qu'en plus, elle m'a dit de venir récupérer mes affaires lors du décès de mon beau-frère. Alors ça, j'ai très mal pris. Parce que j'avais le deuil à porter, le soutien pour ma sœur. Et puis, ses enfants.
Oui.
Alors, j'avais autre chose à entendre que de me dire qu'elle ne voulait plus d'hommes dans sa vie, de venir récupérer ses affaires. Venir récupérer mes affaires.
Donc là, vous me parlez de cette personne à 900 km ou vous me parlez de la première sœur?
Oui. Voilà, de la personne à 900 km.
Ah, donc elle a rompu avec vous, alors que vous étiez en plein deuil familial et que vous aviez consenti à vous déplacer, à déménager pour elle, c'est ça?
J'avais pris une année sabbatique à l'époque, oui.
Oui.
Et puis on a discuté, après il s'est passé du temps. Et on a rediscuté, puis là au mois de mai, elle m'a demandé de venir la voir.
Oui.
Je suis allé, passé 15 jours. Et puis au bout du compte, pour me dire, non. Je ne suis pas faite pour être avec toi, je ne suis pas faite pour être avec un homme. Je préfère rester célibataire. Je pensais qu'en essayant de se redonner une seconde chance, ça allait être mieux.
Oui.
Mais alors j'ai tout fait pour elle, j'ai participé, hein, bien évidemment. Je l'ai aidée, mais la première semaine s'est bien passée, mais la deuxième semaine, il fallait que je ne touche à rien dans l'appartement.
C'était assez paradoxal, parce que d'un côté, elle souhaitait que vous quittiez tout pour la retrouver, ouais. Et de l'autre, elle semblait ne pas supporter la vie en couple.
Oui, pas avec moi.
Oui, ça c'est vrai que ça, vous le saurez jamais.
Mais... Et puis on devait se revoir là aux vacances d'été, et puis elle m'a envoyé un message là, il y a une quinzaine de jours, elle me dit « Je pense qu'il n'est pas bon qu'on se revoie », et ainsi de suite. Et puis, j'ai dit « D'accord, c'est ton choix, je le respecte ».
Et vous, vous étiez toujours amoureux d'elle? Dans quel sentiment?
Même encore.
Encore maintenant? Donc c'est cette femme-là que vous aimez, donc c'est pas... Oui. Voilà. Et vous êtes toujours en ce moment avec la deuxième sœur, ou est-ce que vous avez rompu?
Non, j'ai plus personne.
D'accord.
Je n'ai plus rien, je souffre de cette solitude.
Oui.
Parce que je me dis que j'ai donné, j'ai tout fait pour ces dames, entre guillemets. Pour avoir quoi au bout? Rien.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce sont des histoires assez différentes entre
les deux sœurs, bien sûr.
Oui.
Bon, les deux sœurs, ce sont des histoires à peu près similaires.
Oui.
Mais cette dernière entre les deux, non.
Alors là, et c'est d'elle dont vous êtes amoureux. Donc c'est là qu'est votre chagrin d'amour. C'est à cet endroit-là.
Oui.
Vous avez compris pourquoi il y a eu ce problème entre vous? Et parce que, bon, elle vous dit qu'elle ne supporte pas d'homme après vous avoir demandé de déménager auprès d'elle. Donc, c'est assez énigmatique, dit comme ça. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé?
Mais oui. Et puis, de temps en temps, elle m'envoie un message pour me demander tel ou tel renseignement. Alors, c'est humiliant, c'est... Non.
Dans votre esprit, cette histoire-là, elle est terminée? Vous pensez que vous devez en faire votre deuil, ou vous gardez un espoir?
Oh, je ne garde plus d'espoir vis-à-vis d'elle.
Non. D'accord. Dans votre question aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir rencontrer une femme avec laquelle vous puissiez avoir une relation heureuse d'une part et saine.
Une relation digne de ce nom.
Oui.
Une relation... je ne suis pas un radin, c'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas contre l'idée de m'investir, de partager, quoi que ce soit. Mais moi, je dis, accepte-moi comme je suis et non comme tu voudrais que je sois.
Vous avez l'impression qu'une de ces femmes-là a voulu vous changer?
Oui.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'elle voulait transformer chez vous?
Parce qu'il fallait que je voie mes amis, et puis que je fasse le tri dans mes amis, et puis moins d'activité, enfin, passer plus de temps, mais j'en passais du temps avec elle. Mais bon.
J'ai l'impression, Vincent, que à travers ces différentes histoires, même pour des raisons différentes, vous vous êtes pas senti beaucoup aimé pour vous-même.
Non. Mais je souffre.
J'entends.
Oui.
Et à votre avis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui était déjà arrivé plus tôt dans votre vie? Comment s'est passée votre vie amoureuse avant ces trois femmes-là? Est-ce que vous avez eu des séquences heureuses? Est-ce que vous avez été aimée?
Oui. J'ai une vie amoureuse là, avec une femme avec qui je m'entendais très bien.
Oui. Donc, plus loin dans le temps, c'est ça, hein?
Oui.
Oui.
On est resté plus de 10 ans ensemble.
Ah ben, en effet. Et là, vous vous êtes senti aimé par elle?
Ah oui.
Et avant, quand, dans votre jeunesse, comment s'est passée votre rencontre avec les jeunes filles? Est-ce que ça se passait bien? Est-ce que vous avez eu des moments heureux?
Oui.
Oui,
je ne peux pas... je ne peux pas dire, je m'investissais beaucoup, et puis bon, je suis assez dynamique.
Oui.
Bon, malgré l'handicap qui est là, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de moi. C'est comme ça.
Ça fait longtemps que vous souffrez de ce handicap?
Ah ben oui, oui, moi c'est de naissance, oui.
D'accord, donc au fond, toute votre vie amoureuse s'est faite avec ce handicap-là.
Oui, oui.
Oui, donc vous savez.
Mais maintenant, j'aurais tendance à dire que ben, les femmes ne veulent pas de personnes handicapées. Enfin, je me suis mis ça dans la tête, je ne sais pas.
Ben, ça ne me semble pas juste au regard des faits, parce que ce que vous, d'abord, ben, des oui, femmes oui, vous en ben, rencontrez. On ne peut oui, pas dire oui, que oui, vous oui, ayez oui, une oui. vie amoureuse vide. Et semble-t-il, vous avez eu des séquences heureuses et des séquences malheureuses.
Oui, oui.
Les deux. Dans une vie amoureuse qui semble avoir été...
Mais là, je ne sais pas comment me défaire de ça, parce que... Enfin, si, j'arriverais bien à me défaire de cette histoire, de cette femme qui... Ben, je l'ai toujours eue dans mon cœur, mais je ne sais pas.
Il me semble, Vincent, que piège serait pour vous, à la lumière de ces trois dernières histoires qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, que vous forgiez la croyance que, du fait de votre handicap, vous ne pouvez pas avoir une relation amoureuse heureuse ou une autre croyance à votre détriment. Parce que ce n'est pas ce que dit votre trajectoire amoureuse. Ce que dit votre trajectoire amoureuse, c'est que peut-être comme tout un chacun, parfois ce sont des bonnes rencontres et il y a de l'affinité, il y a de l'amour et du bonheur. Et puis parfois, ça ne matche pas,
comme
on dit.
Il y a un peu des deux, c'est vrai, mais je pense plus à la première solution en ce moment.
Oui, c'est-à-dire quand... Vous pensez que vous êtes en train de forger la croyance que le fait d'être non-voyant, ça vous empêche d'avoir une vie amoureuse heureuse ?
Oui, oui.
Vous croyez que c'est à cause de ça que les deux sœurs
ben,
se sont montrées
pas.
Intéressées envers vous ?
Je ne sais pas.
Ça me paraîtrait dommage, parce que je pense que c'est vraiment de nature, d'abord, à vous enfermer dans une image dévalorisée de vous-même, ce qui n'est quand même pas propice à s'élancer dans la vie. Et aussi, ça me paraît être une croyance erronée. Est-ce que ce n'est pas une façon de rapprocher des faits ? Donc c'est toujours très pénible quand on a une histoire d'amour qui se passe mal, soit parce qu'elle n'est pas saine autour de l'argent, soit parce qu'il y a un chagrin d'amour. Mais rapprocher ça pour constituer une croyance qui vous limiterait terriblement si vous pensiez que c'est le fait d'être non-voyant qui vous empêche d'être heureux en amour, je pense que ce serait vraiment dommage. Ce serait comme faire votre propre prison.
Oui.
La déception, c'est difficile. Et bon, je pense que ça, c'est une peine qui se suffit elle-même. Mais vous voyez, souvent, quand il y a des épisodes de vie douloureux, ce qui peut enfermer les personnes, c'est pas seulement la blessure liée à cette douleur, c'est qu'elles sortent de cette épreuve en ayant forgé une croyance qui les dessert. Et ça, c'est plus un obstacle pour la suite de leur vie que le chagrin d'amour lui-même qui passe. Enfin, c'est un deuil, ça se traverse. Vous voyez, en revanche, une croyance, ça peut nous limiter pour le reste de notre vie si nous n'essayons pas de la défaire.
Ben, je veux bien... Enfin, je peux essayer de la défaire parce que je sors, hein, je ne prive pas de sortir pour autant.
Oui.
Et de rencontrer des gens, mais voilà.
Je pense, Vincent, je ne sais pas si vous pouvez faire ça seul ou aider, peut-être, mais je crois que la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est d'aborder la suite de votre vie, et en particulier de votre vie amoureuse, ce dont vous nous parlez ce soir, sans a priori. Parce que si vous faites des liens entre des histoires qui sont différentes en disant que c'est parce que vous êtes non-voyant ou parce que quelque chose ne va pas chez vous ou parce que vous êtes maudit en amour, type de croyance aussi qui peut nous limiter, ça ne peut que vous entraver pour la suite de votre vie. Or, je pense que la meilleure position que nous puissions avoir pour aborder une nouvelle rencontre, c'est d'être sans idée préconçue, ouvert à la rencontre, attentif aux signes, et soit ça va, soit ça va pas, mais... Oui. Et oui, être ouvert, bon, et aussi, j'allais dire, vierge de croyances négatives vous concernant, vous voyez. Je sais que c'est pas facile quand on a traversé une épreuve, mais je crois que ça fait partie de la guérison que nous avons à nous accorder à chaque difficulté, c'est de guérir de manière à ce que...
Mais j'ai toujours su surmonter mes épreuves difficiles.
Oui. Donc d'évidence, vous avez des ressources pour ça.
Je pense.
Passant, j'espère vraiment que l'été et puis l'assouplissement qu'on a dans nos modes de vie va vous permettre de faire des bonnes rencontres, de vivre des moments agréables. J'espère vraiment que l'été va vous apporter de belles surprises pour que vous puissiez ne pas rester dans cette idée très triste que ce soit ce handicap chez vous qui vous empêche de vivre.
Ben non, parce que je suis quelqu'un de jovial, quelqu'un de sensible et puis qui est à l'écoute.
Oui, ben oui, ce qui est une immense qualité, à coup sûr. Et si jamais quelqu'un le retourne contre vous en se montrant intéressé, ben vous le repérerez et vous ne laisserez pas cette personne entrer dans votre vie.
Oui.
Vincent, vous souhaite un bel été. Vous dites que vous nous avez appelé déjà. N'hésitez pas à le faire à nouveau.
Je vous remercie encore. Merci de votre accueil et de vos émissions.
Avec plaisir. Bonne continuation à vous, Vincent.
Merci.
Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ces 20 dernières minutes. C'est Parlons-nous, l'émission qui traite votre question de vie, votre sujet du moment, en vous aidant à comprendre comment fonctionne l'esprit humain et en nous vous accompagnant dans votre réflexion. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine, merci beaucoup.
Avec plaisir.
De recevoir.
Avec plaisir. De quoi souhaitez-vous nous parler ?
Eh bien, en fait, la question est très simple, mais je crains que la réponse, elle, soit un peu moins. Je vais perdre mon frère qui a 55 ans, atteint d'un sarcome, donc très rare. Mmh. Pas de moyens de guérison. J'ai un autre frère qui le prend assez bien. Moi, j'essaye de tenir le coup pour maman, mais maman, elle est dévastée.
Oui.
Maman, elle a 82 ans, bien entendu, à cet âge-là, voir partir son fils, c'est pas dans l'ordre des choses.
Bien sûr, bien sûr.
Et sachant qu'elle a des antécédents médicaux quand même, c'est pour ça que j'appelle surtout, parce que elle a eu un AVC.
Oui.
Elle est devenue fragile du cœur.
Oui.
Elle est devenue très émotive.
Oui.
Mon frère, donc malade, a souhaité lui parler via WhatsApp.
Oui.
Parce qu'il sent que c'est vraiment ses derniers moments, ses derniers jours.
Ah,
il
oui.
le sent.
Oui.
Et donc, il a souhaité lui parler, lui dire au revoir. Mais parce que lui, par contre, ne veut pas voir maman. Ne voit pas que maman le voit plus, comme ça, plutôt. Ne voit pas son corps diminué, dégradé. Il ne souhaite pas que sa mère garde cette image-là de lui.
Mmh.
Mais maman, elle, insiste absolument. Elle veut absolument le voir. Mmh. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Nous, les enfants, nous sommes divisés sur la question. Les amis autour également, nous avons interrogé, nous avons pris des avis.
Oui.
Bon, c'est 50-50. Certaines mères, moi je ne suis pas mère moi-même, je suis célibataire, donc je n'ai pas ce lien, je n'ai pas vécu ce lien particulier entre une mère et son enfant. Non, mais les mères autour de moi, bon, 50-50, oui, il faut qu'elles le voient. Les autres, oui, effectivement, vu la santé fragile de ta mère, c'est peut-être pas souhaitable. Donc, nous sommes complètement divisés et c'est la raison pour laquelle je vous appelle avoir un avis professionnel.
Je comprends. Écoutez, déjà, la situation est dramatique pour votre frère qui, lui, est dans ses derniers jours. Déjà, il l'a dit à votre mère. Donc, votre mère, déjà, a pu supporter la nouvelle. Aussi terrible soit-elle.
C'est-à-dire que j'ai eu deux heures. J'ai eu deux heures pour la calmer. Elle a vraiment été atterrée, jambes coupées.
Oui.
Pendant deux heures, nous avons eu du mal à la calmer. Et j'ai appelé des renforts, d'ailleurs, ses meilleurs amis, sa sœur. Nous sommes dans un pays étranger, on n'est pas en France actuellement, et nous partons demain pour la France. Mmh. Et elle va beaucoup mieux depuis qu'elle sait qu'elle part, et que donc, dans son idée, elle va le voir automatiquement. Donc, il n'est pas possible qu'elle aille en France sans le voir. Donc, on n'habite pas Paris, mon frère est à Paris, nous habitons le sud de la France, donc on va d'abord faire un stop, une halte au sud de la France, et elle, dans sa tête, il faut absolument qu'elle remonte ensuite sur Paris. Nous, on est divisé sur la question.
Donc, elle
va beaucoup mieux, elle va beaucoup mieux, c'est vrai, mais alors, ça a été terrible pendant 2 heures. Vraiment.
Oui, là,
je croyais que j'allais la perdre parce que
sûr.
J'avais peur pour son cœur.
Ben, c'est une détresse extrême, etc. C'est une des douleurs les plus terribles qu'on puisse imaginer. Comme vous le disiez vous-même, il y a quelque chose de l'ordre d'une anomalie parce qu'elle doit penser que dans l'ordre des choses, c'est elle qui doit partir avant son fils. Et puis, cette douleur d'une mère, de toute façon, quel que soit l'âge d'un enfant, le deuil d'un enfant, c'est l'insupportable par excellence. En revanche, Marie, puisque vous me demandez mon avis, moi je pense qu'on sait toujours ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux, en écoutant la personne. Et votre mère semble très tranchée dans son idée de revoir son fils. Elle, quand on se déplace dans sa logique, c'est une maman. Pour elle, probablement, rien n'est plus important que de voir son fils une dernière fois. Et est-ce que je me trompe en me disant que elle, dans sa logique, elle serait prête à mourir pour le voir une dernière fois? Peut-être c'est dans cet ordre-là que les choses se passent dans son esprit. Vous voyez? Peut-être qu'elle, la question de sa propre vie, c'est pas ça qui la préoccupe. Que pour elle, ce qui donne du sens à sa vie, c'est sa position de mère. Et que revoir son fils, c'est ce qui la porte, et peut-être que ça lui est égal, ce qui peut lui arriver après, parce qu'elle aura l'impression que si elle a pu revoir ce fils, et non seulement le revoir, mais aussi ce qui peut la porter, elle, c'est de lui donner tout son amour de mère au moment où il va partir. Peut-être qu'elle a besoin de lui faire ce don. Et moi, j'ai tendance à penser que si elle insiste autant, c'est que lui donner ça, lui donner tout son amour de mère au moment où il va partir, c'est tout ce qui donne du sens à sa vie en ce moment, et peut-être d'accord. que le reste lui est égal.
C'est-à-dire que je me suis posé la question, moi,
oui.
quand j'ai vu la réaction qu'elle a eue,
oui.
quand elle l'a vue sur la tablette, quand elle l'a vue via WhatsApp.
Elle était choquée.
Pourtant, complètement. Ce n'était que son visage, hein. Donc elle n'a pas vu en entier. Que son visage, mais elle était, oui, elle a dû, c'est-à-dire qu'elle lui a parlé pendant peut-être une minute, en pleurant, bien entendu. Lui, il essayait de la calmer en disant que ça ne servait à rien, qu'il était, mais ce sont ses paroles à lui étaient tellement fortes qu'il a, ça a été pire pour elle. Il disait, maman, ça ne sert à rien, c'est le destin, on ne choisit pas, l'essentiel, sont les moments que vous avez passés sur Terre. Ils ont été heureux pour moi. Je n'ai aucun regret. J'ai une belle vie, une heureuse, avec ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai une belle famille. C'est ça qui compte, maman.
Mais
c'est ça qui compte. C'est pas les 57 ans, ou 55, ou les 80, où on part. C'est le moment que l'on passe et comment on le passe.
Oui.
Et ça, ça a été, extraordinaire de mots. Et elle, ça a été... Je suis prêt à partir, dit-il. Je suis prêt à partir. Et là, elle a complètement flanché.
Oui.
Voilà.
Elle a flanché parce que c'est émotionnellement extrêmement intense ce qui s'est passé. Votre frère est dans une très grande dignité, c'est lui qui souffre et il trouve le moyen de donner aux autres les paroles apaisantes qui puissent les aider à supporter le chagrin de la perte. Donc là, il y a chez votre frère une grandeur d'âme. Rien que ça, en plus du chagrin de la disparition, il y a de quoi bouleverser n'importe qui. Donc il me semble que dans l'émotion de votre mère, il n'y a pas seulement le chagrin du départ, il y a aussi l'émotion extrême face à la grandeur d'âme de votre frère. Ça, ce n'est pas forcément une émotion négative, vous ne croyez pas ?
Parce c'est vrai.
Le moment où on part sont des moments paroxystiques, c'est des moments extrêmes où finalement notre âme est à ciel ouvert d'une certaine façon. Et ce que nous sommes apparaît, et peut-être que votre mère a été émue de voir autant de dignité, de générosité chez son fils, ça peut être aussi la raison de ses larmes.
Oui, c'est vrai que c'est fort. C'est
Oui. C'est des mots. Ce que vous dites là, c'est extraordinaire. Et je pense que vous aussi, ça a dû vous toucher à l'extrême. C'est vraiment une leçon pour nous, êtres humains. Et cet homme qui pourrait être dans la plainte, qui pourrait dire c'est injuste, se révolter.
Oui, c'est vrai.
En fait, il y a une forme de transcendance en fait dans son discours, oui. Puisqu'il arrive à dépasser ses propres souffrances et son propre malheur pour donner un beau discours à l'autre.
Alors j'ai une deuxième petite interrogation.
Oui.
C'est qu'elle est très 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 catholique. Elle est à fond vraiment dans la religion.
Elle vous a appelé Marie d'ailleurs. C'est votre oui.
C'est mon premier prénom.
Oui. Oui.
Elle est très très. Elle va à la messe tous les dimanches, etc. Et je viens d'apprendre, ça je ne le savais pas. Je viens d'apprendre par ma belle-sœur qui ne veut pas être enterrée.
Oui.
Alors là, je ne sais vraiment pas comment elle va réagir. C'est un deuxième coup de massue.
Vous savez, j'ai l'impression que entre votre mère et son fils, il se passe en ce moment des choses très fortes qui sont de l'ordre de la transcendance de l'amour. Mm-hmm. Et moi, je pense que ce type de transcendance, ça peut aller au-delà de sujets comme celui-là. D'évidence, votre frère parvient à lui donner des choses incroyables, à vous donner des choses extraordinaires à tous dans le discours qu'il vous livre. Enfin, il vous aide à le laisser partir finalement. Votre mère, elle est prête à enjamber sa fragilité, son grand âge, les épreuves physiques qu'elle a connues, pour pouvoir aller le voir. Et je pense que votre mère, vous m'avez dit qu'elle a vu son visage sur la tablette, donc elle s'attend à trouver un état physique extrêmement impressionnant. Pourtant, elle est prête à cette transcendance-là. Donc moi, je pense que dans ce cadre-là, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de dons, je pense qu'il faut laisser faire le dialogue entre eux. Et je ne serais pas surprise que cette question-là aussi, elle se traite dans une forme de transcendance, c'est-à-dire que votre frère donnera tellement à sa mère par son discours que sa mère aura peut-être à cœur de lui donner ce qu'il veut pour partir. Enfin, vous savez, quand on est au-delà de tous les dogmes et qu'on est dans l'amour pur, je pense qu'il y a bien des questions qui se simplifient.
Oui.
Oui. Je serais vraiment tentée, Marie, de vous soutenir, vraiment de vous soutenir dans l'idée de laisser la rencontre se faire.
Oui.
Votre mère la désire.
J'étais dans le doute, mais je pense que oui. Oui.
Oui. Et vous savez...
Elle s'y attend, elle est mieux, elle va mieux depuis qu'elle sait qu'elle va le voir. Elle insiste vraiment, donc bon... On ne peut pas empêcher une mère d'avoir son fils, c'est pas possible.
Non, c'est comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est le sens principal qu'elle donne probablement à son existence maintenant. Vous savez, parfois, l'expérience au cabinet, on entend des deuils d'enfants, c'est toujours les épreuves les plus terribles. Et c'est étonnant de voir à quel point les mères ont à cœur d'accompagner leur enfant, que ce soit un nourrisson, un bébé ou plus tard, à quel point pour elles il est essentiel d'accompagner l'enfant jusqu'aux portes de ce monde. Enfin, c'est l'expression de l'une d'elles que je reprends, parce que ça donne du sens à leur maternité, à tous les soins qu'elles leur ont donnés pendant toute leur vie. Là, il y a quelque chose de très fort qui se passe.
D'accord. Oui.
Mais pour vous, il vous faudra... Mais ça, Marie, vous parlez de votre frère, vous parlez de votre mère, mais il y a vous aussi. Vous ne parlez pas beaucoup de vous, vous êtes en deuil, vous êtes aussi en deuil anticipé, vous êtes aussi dans ce drame.
Oui.
Comment vous allez-vous?
Ça va. Je tiens pour ma mère. Elle a besoin de moi, donc je tiens. Je crois, la plus solide des trois pères et sœurs. Nous sommes trois dans la fratrie.
Oui.
Et j'ai toujours été très, très solide, forte. Même dans les drames qui ont été dit, bon, il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Il y en a eu un. C'est pour la raison pour laquelle j'ai appelé Caroline, d'ailleurs, il y a deux ou trois ans.
Oui.
Et je me suis entretenue avec elle. Mais bon, ça va. Je tiens.
Oui. Marie, je pense que vous allez pouvoir donner votre force et à votre frère, peut-être pour qu'il consente à voir votre mère, peut-être que vous aurez à lui parler pour qu'il consente à enjamber ses réticences.
D'accord.
Et puis peut-être que, et après, vous serez là pour votre maman, une fois qu'elle sera engagée dans le deuil. Et en tout cas, il y a beaucoup d'amour dans votre famille. C'est extraordinaire,
oui, c'est
ce
vrai
que vous nous transmettez.
C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'amour entre nous. Oui, c'est vrai. On a une belle famille. C'est le premier drame dans cette famille. Et c'est vrai que ça c'est douloureux, très douloureux.
Oui, c'est douloureux, mais c'est aussi prodigieux ce que ça peut produire. Alors Marie,
je
vraiment...
Oui. Oui, je vous écoute.
Oui, 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 j'allais vous dire, mais peut-être vous souhaitiez ajouter quelque chose, qu'on est vraiment avec vous de tout cœur. Et puis...
Merci beaucoup.
Voilà, je vais...
Vraiment, merci beaucoup.
On va vraiment penser à vous. Et puis, je vous embrasse, Marie.
Et bien, je vous embrasse aussi.
Voilà, prenez
merci
soin
beaucoup
de vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous.
Et c'est la fin de notre échange pour ce soir. Nous sommes encore dans l'émotion de témoignages forts, courageux, au cours desquels nous avons eu l'occasion d'apporter notre écoute, notre soutien. Et nous remercions chacun de ceux qui ont parlé ce soir de nous avoir aussi, pour certains, donné des leçons de vie, vraiment. Je vous retrouve lundi en direct dès 22h. Le numéro de Parlons-nous vous est toujours ouvert, y compris sur répondeur. Alors n'hésitez pas, quand vous voulez, pour tous les sujets que vous choisirez. 09 69 39 10 11. Je vous souhaite un très beau week-end.